Bonsoir, c'est Geneviève Le Tarte. Vous écoutez EQT, CKUT 90.3 FM à Montréal. Ça, c'est fort!
À toutes et à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de mes deux comparses habituels. En premier lieu, on a César. Comment vas-tu ce matin?
Bien, toi?
Très bien, merci. Et aussi nul autre que notre grand, seul et unique, le grand Manitou de CKUT.
Dans le ring gauche.
Dans la ring gauche.
À la droite, c'était César.
Un poids-plume.
Un poids-plume. Poids semi-léger.
Surnommé le grand Manitou de Pierrefonds.
Exactement.
Marc-André, justement.
Former champion.
Ex-champion. Marc-André, comment vas-tu?
Je vais très bien. Vous deux, Nelson et César,
moi,
comment
ça va très bien. Ça va très bien. Nouvelle année.
Ouais. On souhaite toute la bonne musique, des shows, des bonnes lectures, des bandes dessinées. On a un super bon show pour vous autres. Je suis content. Les trois, on est là. La dernière fois, on n'était pas là, les trois. Mais là, la Trinité, le Père, le Fils et le Spiritu. Amen.
Ah ouais, c'est qui le père, le fils?
Non, nous toi, t'es un père, fais attention.
Ah ouais?
T'es le père d'une couple d'enfants.
Moi, je pense l'Esprit Saint d'abord.
Ouais, c'est ça. Hein?
J'ai pas de fils, j'ai pas d'enfant.
Toi, t'es-tu le
fils?
Le fils.
Ok. Je suis ton père.
Oh. Le côté obscur de la force.
Exactement.
Saute dans le côté obscur.
Join me.
Ouais, tant de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'était la bottine souriante. Moi, je suis resté accroché au temps des fêtes. Je veux pas décrocher.
Ben ouais.
Parce qu'on n'a pas eu de neige dans le temps des fêtes. Fait que là, on a. Fait que c'était la bottine souriante. C'est un album, La Mistringue, si je ne me trompe pas.
La Mistrine,
je sais même pas parler. Et c'est le réel des soucoupes volantes. Dans le temps que. On en parlait avant les ondes là, que Yves Lambert était dans le groupe. Et, mais celle-là, c'était une toune instrumentale, mais sur les deux autres, les autres tounes, le rap à Tipetang, puis tout. Puis la pochette est super cool parce que, tu sais, c'était inspiré
des peintures du Moyen-Âge.
Fait que là, quand tu trouves, j'ai un CD, mesdames et messieurs, je l'avais en cassette, là, je l'ai en CD. Merci.
Puis quand on déplie le dépliant, ouais, quand on déplie le dépliant, c'est comme un affichette, un poster.
Un poster à neuf.
Puis là, c'est des gens qui dansent. Ça ressemble dans la vieille Europe. Ça dit, est-ce une danse triviale ou de Saint-Guy? Un rituel amoureux? Un chant de sirène? Un Casanova porté disparu? Un être sybarite? Une légende de Yabé? Ou encore un bourreau des cœurs? La Mistrine, des histoires sans fin. Fait que c'est un super album que j'ai réécouté, que j'avais en cassette, mais ça sonne mieux en CD.
1994, fait que ça va faire 30 ans.
Wow! Oh, wow! Quand même.
Cette année-là, hein, c'est quelque chose, 94. Hein?
94, beaucoup de choses étaient en 94.
La Bottine Souriante, déjà, avait un bon album.
Mais on va avoir de la musique plus récente parce qu'on a César, puis César nous arrive tout le temps avec du fresh.
Un stack
de la fresh music, là, du nouveau stuff.
Une chance qu'il est là. Hein?
Une chance qu'il est là. Ouais. Parce que sinon, on serait dans le old school.
On serait toujours dans les années
1996. Guys, c'est en 2024.
Il faut se le répéter, hein? 2024.
Il y a beaucoup de 10e anniversaire, 20e anniversaire, 30e anniversaire, 40 ans pour 1984.
My God.
Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de films que genre, ah, ça fait juste 25 ans. Non, c'est 40 ans qu'on parlait d'Indiana Jones.
Ouais. film 1984.
Le film 1984. Ouais, il était sorti en.
L'as-tu fait pour.
Ouais, il est sorti. Ouais, je pense qu'il est sorti en 84.
Il y a Class of 1984 aussi.
Ah, lui, je le connais pas.
Ça, c'est mauvais. C'est des punks qui sont méchants dans une classe. Puis ils tourmentent leur instituteur. Ne faites pas ça à l'école, les jeunes, c'est interdit.
Alors, écoutez pas le film.
Mais c'était comme le film, là, tu sais, le film là, bad là, des années 80, il ne fallait pas que tu vois ça. Là.
Ah ouais?
Un peu comme moi, je l'ai écouté. Par quoi qu'on commence?
On commence par là, tu as une BD dans les mains. Fait que dire...
Je fais juste la tenir. Là. Je fais des exercices. Un en haut, un en bas.
Avec tu fais tes épaules. Avec le livre qui pèse au moins 4 livres.
Ouais. 4 livres.
Ouais, c'est une autre année de livres, musique, films qu'on va découvrir et qu'on a déjà découvert.
Tu sais, je te laisse lire. Je vais avoir les bras légers.
À tantôt, tout le monde. Je vais lire une BD dans le coin tranquille. Je vais vous laisser avec Marc-André et César. Non, alors je lis le titre Colorado Train, d'après le roman de Thibaut Vermeaux. Et là, on a une BD écrite par, Alex Inker, c'est ça?
Ouais, je pense que c'est ça.
Alex W. Inker. Qui doit être l'illustrateur et.
Celui qui a fait l'adaptation.
L'adaptation du roman de Thibaut Vermeaux.
Ouais. Check la quatrième de couverture, je te laisse là.
Tu as
une plus belle voix radiophonique FM.
Donc, à Lando, la quatrième de couverture, on a une image, une illustration d'un train. On voit de face, un train de marchandises, on dirait. D'un wagon, d'une locomotive qui entre peut-être dans un tunnel ou dans une forêt, c'est pas clair. Qui se cache derrière la porte, tapis dans l'ombre, à l'affût des enfants? Quelle est cette créature démoniaque dont s'élève la respiration dans la nuit glacée? Quelle est cette bande de gamins insoumis et solidaires? Bienvenue dans le labyrinthe romanesque et diabolique de Colorado Train. Chou-chou!
Exact, chou-chou. The Chou-chou Train. The Night Train. C'est une bande dessinée en noir et blanc. La ligne claire, mais avec quand même beaucoup de détails. C'est une grosse brique. J'imagine que le roman sur lequel c'est basé, il y a beaucoup de matériel parce qu'ils font des chapitres, puis on dirait d'un chapitre à l'autre, on dirait qu'il y a un petit gap de temps. On suit une bande de gamins un peu. T'en rappelles, on en parle souvent de ce film-là, avec Phoenix River.
River
Phoenix, merci.
Oui, oui, Stand By Me.
Stand By Me. Ouais. Il y a un côté Stand By Me. Fait que si vous avez aimé, tu sais, l'espèce de... Des petits jeunes là, au secondaire là, qui sont amis à la vie à la mort puis qui font les 400 coups, ben c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que en plus de vivre leur enfance, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des hobos, des gens qui sautent dans les trains puis qui partent d'une région à une autre. On est aux États-Unis dans les années 80, tout ça. Et il n'y a pas de cellulaire et tout ça. Fait que Il y a une légende comme urbaine qu'il y a comme un hobo qui fait disparaître, il y a des disparitions d'enfants.
Oh, palai.
Fait que ça, c'est un peu triste.
C'est moins drôle.
C'est moins drôle. Et là, ça arrive à un des petits frères de cette gang-là. Et là, il y a enquête parce que les policiers croient plus ou moins à ces histoires-là de bonhomme 7 heures, là, si on peut dire. Mais c'est vraiment bien. Fait que j'imagine, la bande dessinée est très bonne, le récit est bien construit, mais j'imagine qu'il y a plus de chair, il y a plus de détails dans le roman que dans cette bande dessinée-là qui est un espèce de roman graphique.
Ouais, c'est plus un roman graphique. C'est plus un roman graphique. On est dans les centaines de pages ici. Là.
Exactement. Et les personnages sont super 220. Bien développés. On s'attache à eux. Ils sont typiques. Il y en a un qui parle pas gros, mais c'est comme un patenteux. Il y a le frère, le grand frère du petit frère qui a été disparu. Puis là, il trouve des indices. Puis là, il y a une fille qui est comme un garçon manqué, mais elle fait partie de la gang des quatre gars. C'est comme quatre jeunes amis. Puis là, il cherche, il y a effectivement un espèce de hobo qui se promène dans les gares de train, dans les gares de triage de train.
Okay, ouais.
Et là, il y a toute la culture du hobo. Fait que tu sautes d'un train, tu débarques d'un autre train, sur le train avec une craie ou avec ce que tu trouves, tu dis « John was here, Colorado, 1984 yeah. ».
Ah, il parlait comme ça au Colorado?
Comme ça, il avait un accent. Il venait de la Louisiane. Il avait un accent cajun.
Puis est-ce que l'histoire, il se promène géographiquement? C'est comme un peu...
Dans la même région, là, dans le même état, mais oui, il se passe de quoi, là, fait que... Je l'ai lu là, avant les fêtes. Là, fait que, faut lire, là,
ah, tu vas voir. J'ai vu
un documentaire sur Vice du monde qui sortait de train en train. Il faisait des longs trajets.
Ouais.
Freight Hoppers ou je sais pas trop quoi.
Ouais,
mais...
ben c'est ça, c'est des hobos, des Freight Hoppers. Il y en a au Canada. Il y en a en Amérique du Sud. Il y en a... pour des fois, ceux qui viennent de l'Amérique centrale, puis tout ça, il y avait un bon film il y a une couple d'années, ça s'appelait La Tu sais, c'était comme le nom du train, c'était comme le monstre, la bestia. Puis il saute sur le train, sur le toit en haut, puis il traverse mettons, Salvador, Guatemala, Honduras, tout ça. Pour ça, ils veulent se rendre aux États-Unis, puis tout ça. Fait que il y a toute cette culture là, mais c'est du fast paced action. C'est un roman graphique que je donnerais à un adolescent ou une adolescente qui aime un peu l'aventure puis que c'est un petit peu de peur, un peu de mystery. Mais le plus bel exemple c'est Stand By Me, je trouve.
Okay.
C'est dans ces eaux là.
Ouais, parce que dans l'histoire de Stand By Me, les quatre jeunes hommes, les quatre jeunes garçons, en fait, ils partent à l'aventure pour trouver un cadavre. Parce qu'il y a une rumeur. Là, l'histoire se passe dans les années 50, sauf
erreur. Oui, exact.
Il y a une rumeur qu'il y a un cadavre. Puis qu'ils connaissent le cadavre. Là, c'est comme quelqu'un du village.
Ouais, puis
ils veulent le trouver parce qu'ils ont entendu des histoires. Puis là, justement, à un moment donné, ils se promènent pas en train, mais à un moment donné, ils croisent un train. Puis, mais c'est un bon film des années 80, oui.
Oui. De Stephen King, d'une nouvelle de Stephen King, je ne me trompe pas.
C'est vrai? Oui, OK.
Que, ouais.
Puis effectivement, il y avait River Phoenix, le petit frère de Joaquin, qui est mort jeune.
Qui est décédé, ouais.
Puis il y a d'autres acteurs connus aussi qu'on a vus dans d'autres films après, mais j'oublie c'est quoi leur nom.
Mais si vous aimez cette ambiance-là, c'est ça. Moi j'aime bien ça, la culture alentour du train. Puis tu sais, il y a un jeune qui est plus laissé à lui-même, puis qui va d'un cours à scrap, puis qui est un patenteux, puis tout ça. Fait que c'est une belle... ça commence bien l'année, disons. On répète le titre, c'est Colorado Train.
De Alex W. Inker, d'après le roman de Thibaut Vermeaux.
Ouais, j'avais jamais lu aucune de ses bandes dessinées à lui, mais j'imagine que c'est son nom d'artiste parce que Inker, c'est comme un nom prédestiné, sinon. Là.
Exactement. Surtout qu'il dessine en noir et blanc.
Oui, exactement. Il ancre ses dessins.
L'encre de chaîne, sûrement.
Oui. Il fait à la mine au début, puis après ça, il l'ancre.
C'est excellent. Ça, Inker.
Puis, j'en ai d'autres. J'ai des affaires. Hey, oui, check bien ça. Deux bandes dessinées aujourd'hui. On le voit, on se garde.
On se garde.
On
le
voit.
Je vais avec Joe Matt. Checkez bien ça. Joe Matt, là, c'est un drôle de moineau. C'est un gars qui a grandi dans les banlieues de Philadelphie. Il a commencé à dessiner des comics en 87. C'est un vrai rebelle, tu sais. Il a vécu clandestinement au Canada de 1988 à 2002. Il est ami avec toute la gang de... OK, première des choses, le livre commence, le titre, ça s'appelle « Épuisé ». C'est Joe Matt, c'est en couleur. C'est un gars qui est couché dans son lit avec des paires de bas, des Kleenex, on ne sait pas trop. Il est épuisé.
Et là, couché sur le ventre. Là,
couché sur le ventre, on ne voit pas son visage. Ouais. Puis c'est son alter ego, c'est lui-même. Il se met tout le temps en scène. Puis la première, il est marqué dédicace à Robert Crumb, qui est comme son mentor, qui m'a montré le chemin. J'espère que j'ai une... Puis là, tu vois un dessin de Robert Crumb, dessiné à la Robert Crumb, qui dit « J'espère que j'y suis pour rien ». Parce que même lui, il trouve ça comme honteux. Okay. C'est un gars qui a des obsessions, des lubies très lubriques, très il est très porté sur le sexe, mais il a plus de petite amie parce qu'elle a cassé avec lui, puis il est insupportable. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui est autofiction, qu'est-ce qui est vrai. C'est en noir et blanc, mais à place il y a une légère teinte de vert foncé guacamole, mais c'est du 8 cases par page et ça se lit assez vite, là, c'est 117 pages à peu près, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Puis il se rend compte avec les d'autres dessinateurs qui existent pour de vrai. T'as Seth qui est un Canadien, c'est quoi son prénom? Attends, je l'ai proche. En tout cas, il se rencontre tout le temps avec deux auteurs, puis ils ont des discussions sur les bandes dessinées. Ils collectionnent des découpeurs de journaux, de bandes dessinées, de vieilles bandes dessinées. C'est des comic strips qu'il y a dans des journaux comme qu'il y avait dans la presse, de
Charlie Brown.
Des Charlie Brown, Peanuts. Tout ça. Mais des affaires bien spécifiques, bien... Puis là, il y a comme des collectionneurs de ça. Puis eux, ils s'en vont dans des places de livres usagés. Puis là, il y en a un qui achète le livre, puis l'autre, il est jaloux, puis il dit « Mais tu le veux même pas, mais oh, je vais te l'acheter. T'as payé 10$, je te l'achète 20$. » Non. Fait que là, il y a comme des surenchères. Fait qu'il y a comme une dynamique entre les trois amis un peu bizarre. C'est comme si c'était nous trois avec un vinyle dans le milieu que les trois voudraient. Puis là, ça fait de la chicane. Puis là, ils vont l'acheter. Puis après ça, ils vont manger au café. Puis là, ils discutent. Ben, tu le veux même pas. Je te le rachète pour le double. Puis... fait que c'est un peu ça. Puis il y a des retours dans son enfance. Pourquoi qu'il est obsédé comme ça. Et là, ça doit se passer dans les années 90. Ils le disent pas. Mais ce gars-là, il a une obsession sur les vidéocassettes. Les VHS.
Okay.
Puis il se fait des montages de films érotiques. Juste les parties qu'il aime. Puis il colle bout à bout avec deux VHS. Fait que c'est pathétique, sa vie est pathétique, mais on embarque dans son pathétisme. Il y a une chambre à louer, il est dans le coin de Toronto, comme je dis, si c'est vraiment à lui, là, il était illégal pendant une couple d'années au Canada, puis il habitait à Toronto, puis on sait qu'à Toronto, les appartements sont dispendieux, encore plus aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Fait que là, lui, il est comme dans une chambre à louer ou dans une espèce d'affaires, puis il veut pas s'en aller de là, ça fait déjà 8 ans qu'il est là, parce que il dit qu'il retrouvera jamais quelque chose d'aussi cheap.
Ouais, okay.
Sauf que il n'y a pas de toilette, puis il n'y a pas de douche dans son studio. Fait qu'est-ce que tu penses qu'il fait?
Il fait tout dans la même.
Il y a un petit jar, puis il va là, puis il va le vider. Puis là, il y a son petit bucket, puis là, des fois, la landlord est là, puis elle s'en demande, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Puis là, elle l'engueule, elle dit, hey, dans le lavabo, ça sent bizarre. J'espère que t'as pas fait un numéro 1 dans le lavabo. Puis là, elle l'engueule, puis là, lui fait comme si, non, moi, je ferais jamais ça. Mais lui, il se promène tout le temps avec son jar
d'urine.
Fait que c'est un personnage vraiment loser, vraiment comme détestable. Mais à cause de ses deux autres compères, amis qui sont plus équilibrés, ça donne une dynamique, tu sais, comme. Good cop, bad cop, stupid cop. Je sais pas comment dire, mais il y a comme une dynamique.
The good, the bad, and the ugly.
Ouais, à peu près. Fait que c'est Joe Matt, c'est paru sur le seuil, c'est une traduction. Ça s'appelle Épuisé. Moi, j'avais déjà lu un autre. Il y a souvent des obsessions sur le sexe, puis la bande dessinée, puis le être un peu accumulateur, faire du hoarding. Mais ça, c'est très bien. Très facile à lire.
Puis lui, illustre ses propres BD.
Ses propres histoires. Fait que c'est de l'autofiction, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, je le connais pas assez.
Puis par rapport à Robert Crumb, parce qu'il le cite dans la première page, c'est comme une inspiration importante dans sa carrière, donc Joe Matt.
Oui.
Est-ce que...
À toute cette gang-là.
Oui.
Parce que c'est du comic underground qui a paru dans Contre Culture dans les années 70 à San Francisco. Puis c'est comme le père de tous ces dessinateurs-là. Joe Matt. Je sais pas, je vais retrouver les. Les deux autres compères, là, mais c'est deux autres dessinateurs connus qui sont canadiens. Il y en a un qui est avec Drawn and Quarterly, qui est à Montréal, là, qui est publié à Montréal. Fait que c'est du monde qui roule leur boss dans le comic, on va dire pas large public, mais pas underground non plus.
Plus alternatif,
alternatif mais
un peu adulte.
Ouais, mais à l'heure, tu sais, c'est le public de Robert Crumb.
Ok. Exactement. Ok, des dessins beaucoup. Ben Robert Crumb, lui c'était pas juste noir et blanc, c'était.
Ben de base c'est noir et blanc, mais peut-être qu'ils ont mis de la couleur dans Freddy the Cat puis tout ça pour attirer un public plus jeune. Mais dans ses propres bandes dessinées qui se met en scène, les pochettes sont en couleur, mais en dedans c'est en noir et blanc.
Ok.
Ouais.
Fait qu'il y a un rapprochement à faire au niveau esthétique.
Si vous aimez
les thématiques.
Si vous aimez l'autodestruction. Je veux dire, c'est des êtres là, qui sont qui sont tough avec eux autres, qui sont tough avec leurs amis. Beaucoup d'autocritique, beaucoup de. Mais c'est le fun. Il est comme névrosé. C'est ça qui le fait comme attachant. Là. C'est comme un Woody Allen, mais de la bande dessinée.
Il
y a des lunettes. Il est maigre, mais là, il va avoir 40 ans bientôt. Fait qu'il trouve qu'il y a une bédaine de bière. Puis là, il n'y a plus de blonde. Fait qu'il pense qu'il ne va plus jamais retrouver de copine. Puis il est épuisé, mais je pense que c'est à cause qu'il passe trop de temps à faire les montages vidéo sur ses VHS. Puis il est gratteux. Le personnage est de toute beauté, mais on s'attache à lui.
OK.
Ouais.
Donc, Épuisé de
Joe Matt.
Joe Matt.
Alors, est-ce qu'on va en musique
avant de continuer? On a beaucoup de musique à vous faire jouer.
Allons-y en musique.
Allons-y.
Let's go. Thank you.
vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce musicale de...
Fever Ray. Cette chanson-là était...
La pièce, je crois, qui s'appelle Candy, with a K.
Oui, c'était Candy avec un K. Yeah, sorti en 2023. Connu par être un demi du groupe The Knife. Groupe électro connu, faire musique un peu left field, un peu plus cérébral, vraiment c'était dansable mais futuristique, c'est très abstrait, on pourrait dire. Donc c'est le troisième album de Fever Ray, Radical Romantics, que quelques chansons, des contributions de Nine Inch Nails et incluant aussi son frère, l'autre demi de The Knife. Personnellement, je pense que c'est son meilleur album solo. Ouais. Puis même un peu comme un genre de... très proche comme album qui suit le catalogue de The Knife, qui n'ont pas sorti un album depuis 2013. Fait que ça va vraiment un peu dans cette direction-là, surtout avec les touches musicales de son frère. Fait qu'on peut voir c'est quoi leur évolution de leur catalogue. Fait que il y a ce son pop de The Knife, où est-ce qu'ils ont fini en 2013, Shake India Habitual. Puis les contributions de Trey Reznor, qui est très le fun, voir les petits sons industriels qui sortent de côté pendant qu'il fait une pause d'écrire des compositions pour des films d'enfants, puis de Ninja Turtles, puis Soul, des affaires de même. Fait que c'était Fever Ray.
Mais cet album-là, je l'écoute, puis je le recommande pour tous les intéressés à la musique électronique, un peu, comme tu disais, champ gauche, là, un peu plus alternatif. C'est vraiment un excellent album, là, Radical Romantics.
Ouais.
Puis c'est une chanteuse suédoise, si je ne me trompe pas.
Oui, suédoise. Ouais.
Ouais. Donc The Knife, qui était l'ancien groupe.
Ouais. Je suis comme hypnotisé par la pochette.
Oui, il faut le noter.
Il faut presque le décrire.
Parce que la chanteuse, c'est comme enlaidie volontairement pour cet album-là. Tout le concept de l'album.
C'est enlever l'image de comme elle comme femme, c'est enlever l'image que c'est une femme. C'est comme créer un ambiguous identity.
C'est comme un personnage, comme une Joker.
Mais c'est comme elle veut être molle. Mais elle fait femme. Tu sais, elle veut tout mélanger, les sexes dans son image. Puis elle a toujours, toujours montré cette image de elle. Depuis même dans The Knife, tu peux même pas voir c'est qui est quoi. Puis même son chant, elle modifie tout le temps sa voix très haut ou très bas, comme c'était un homme démoniaque ou juste distorsionné. Tu sais, elle veut pas créer une image à relier au sexe, c'est juste une identité complètement différente. Ouais. Ça, it really stands out.
Mais si tu te rends compte dans la rue là, par la pochette qu'on voit, l'album, on a bien dit, c'est Fever Ray.
Radical Romantics, c'est l'album.
Ouais. Ah, ok, excuse-moi, c'est Radical. Mais moi, j'aurais peur, je changerais de rue.
Parce qu'elle est maquillée comme tout en blanc, avec les yeux, le contour jaune, des yeux bleu, foncé, creux, noir. Là.
Ouais.
Puis les lèvres un peu avec la calvitie, mais des longs cheveux blancs comme une couronne.
Ouais. Jim Corcoran.
Un habit cravate. Bref, c'est vraiment un maquillage un peu épeurant.
Ouais. Toutes les vidéos, il y a cette image-là. C'est vraiment un rôle. Tout à chaque album, elle a comme créé un nouvel personnage, un peu comme à la Bowie, on va dire. Puis toutes les vidéos, même les concerts, son concert qui est en tournée, je ne sais pas, peut-être en Europe probablement. Elle incarne ce personnage pendant le show. Puis c'est vraiment un spectacle. C'est vraiment comme quelque chose que tu n'aurais jamais vu. Puis c'est vraiment... Elle prend comme le concert comme un multimédia experience.
Théâtral.
Très théâtral, c'est ça. Ouais. C'est pas comme tu t'attends pour chanter. C'est vraiment tu vas voir qu'est-ce qu'elle va faire. Puis même quand elle était avec The Knife, c'était genre un show complètement à part. Tu voulais pas avoir deux musiciens, qu'un il fait des jeux keyboards ou l'autre il chante. C'est vraiment... Avec The Knife en 2013, il y avait comme des danseurs, c'était genre des chorégraphies, des affaires de même. Puis ils sont très reconnus pour être... Ils font leur projet, puis c'est tout. Tu les entends plus parler de...
On est vraiment aux antipodes de toutes les chanteuses. On peut imaginer facilement qui les chanteuses de maillot de bain, là, comme on dit tout le temps. Qui sont extrêmement populaires avec des chorégraphies, puis toujours...
Ouais, mais elle est plus dans la lignée des Bjork puis de...
Ouais,
de
totalement.
C'est ça. Fever Ray, Radical Romantics. On vous revient sur CKUT 90.3 FM après la pause.
What's going on, y'all? It's your girl, Miss Ben, and it's Black History Month, so you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3 FM.
On est de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille. Avant la pause, on parlait de la chanteuse Fever Ray et son dernier album Radical Romantics, qu'on recommande fortement. Mais maintenant, Marc-André, tu nous proposes...
Ben, moi, j'ai une petite parenthèse. Je pensais que quand j'ai vu la pochette au début, c'était la chanteuse déguisée de Die Antwoord.
Antwoord, oui.
Ah, ouais, je pensais que c'était elle. Je sais pas pourquoi. J'ai comme...
Similaire.
C'est un peu champ gauche.
Oui, c'est ça.
Personnage.
C'est censé te choquer visuellement, puis piquer la curiosité pour écouter leur projet, album musical. Puis, même Diane Tour, c'était quelque chose la première fois que c'est sorti en 2007. C'était comme...
C'est pour attirer l'attention.
C'est vraiment What is this? Puis ça crée un méga fanbase avec les années.
Ouais. Fin de la parenthèse. Hey, un film. Les hommes de ma mère. Avez-vous vu ça, les boys?
Non, mais j'ai entendu parler. C'est le film réalisé par Annick Jean.
Exactement. D'après un scénario de Maryse Latendresse, c'est avec Mademoiselle Labrèche d'Or, qui est la fille de Marc Labrèche.
Léane Labrèche d'Or.
Exactement. T'as Jean-Simon Leduc, t'as Marc Messier, t'as Colm Ferry, que je peux jamais...
Colm Fiore,
yeah, OK, whatever. Non, mais le gars de Good Cup, Bad Cup.
Exact.
T'as Benoît Gouin, que j'adore. T'as Patrick Huard. T'as Anne-Marie Cadieux. T'as bien du monde. C'est un gros film. C'est quoi, en gros, l'histoire? Ben, c'est que Elsie, qui est jouée par Mademoiselle Labrèche, c'est une jeune femme à l'aube de sa trentaine. Elle reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique. Sa mère est jouée par Anne-Marie Cadieux, qui est une actrice et qui a le cancer et qui va mourir et qui meurt. Et la mission, c'est de reprendre contact avec les 5 ex-maris de sa mère.
Parce que l'héritage, elle est forcée à faire ça, j'imagine?
Elle est forcée à faire ça. C'est ça que le notaire dit. Il faut que tu rencontres tes 5, on va dire,
ex-beaux-pères,
mais à peu près. Là, les 5 fréquentations que ta mère elle, a eues, qui étaient significatives. Et il faut que tu ailles leur donner. Sa mère a demandé la crémation. Fait qu'il faut qu'elle aille donner une poignée de cendres à chaque un de ces hommes-là.
Okay. Sont joués par
Un cinquième. Un petit morceau de poudre. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est confrontée aux dernières volontés de sa mère. Elle doit renouer avec son passé et se rapprocher de ses anciens beaux-pères et aussi de son père avec qui elle avait coupé tous les ponts depuis longtemps. Et si je te dis Annick Jean à la réalisation, quel acteur tu prendrais pour faire le père?
Ah, ben là, c'est
Patrick
sûr.
Patrick Huard.
Bravo, un morceau de robot pour toi.
Facile.
5 hommes, 5 rencontres marquantes et inattendues. Ma blonde l'avait vu dans l'avion. Ah oui? En venant du Mexique, elle m'a surpris. En revenant d'Alberta.
Ah, OK.
Quand elle voit chez sa soeur, je me trompe.
Air Canada,
elle a vu ça. Puis elle
Air Canada.
Ben oui, c'est bon.
Elle m'a dit, écoute ça, tu vas aimer ça. Je dis OK.
Ah, OK.
Je l'ai écouté. Je vois ça comme une comédie dramatique.
Oui, OK. Ouais.
Avec des petits bouts drôles, des petits bouts plus touchants. Quand que Benoît Gouin dans un film, je suis content.
OK. Je suis heureux. T'aimes beaucoup ce monsieur-là?
Il est bon pour faire des personnages. Ben, on s'appelle de Mike Gauthier dans Québec-Montréal.
Ouais.
Mais c'est jamais l'acteur premier rôle, mais pour faire comme un second rôle où il fait la job. Tu sais, c'est.
Un caméo, genre?
Ben, pas un caméo, mais tu sais, t'as comme un power trio, puis t'as la vedette, mais ça prend les deux, tu sais.
OK, le support.
Ah, mais lui, il est comme là, il fait la job, il fait un personnage assez intéressant. Patrick Huard, il est égal à lui-même. Marc Messier, dans un rôle de composition, il est vraiment... Marc Messier, il est Marc Messier, là. Fait que moi, je vous conseille ce film-là. Moi, j'avoue que le choix de l'actrice, je l'ai vu dans d'autres films, les 5 premières minutes, je vois Marc Labrèche.
Ouais.
c'est plate là, pour elle là, d'une certaine façon, mais son père a tellement marqué la télévision, puis le théâtre, puis tout dans les arts visuels, dans le cinéma au Québec, que puis le père de Marc Labrèche aussi, tu sais, ils se ressemblent tous, une lignée. Fait, moi, je vois comme Marc Labrèche en fille. C'est plate à dire, là, ça va sonner méchant, mais c'est qu'au début... Je vois Marc Labrèche, je sais pas à quoi m'attendre, puis je dis « Ah, ça va être une comédie, ça va être drôle. » Mais non, c'est du drame. Mais j'ai bien de la misère à...
T'avais pas vu d'autres choses avec elle dedans?
Oui, un autre film qu'elle joue dans une affaire sur l'Alzheimer. Elle joue comme c'est comme une pièce de théâtre filmée. J'ai vu ça il y a une couple d'années. Là, okay. Mais je pense que c'est le premier film que j'avais vu. Puis même là, j'étais comme, le film est bon, elle est bonne. Mais elle a des mimiques. Elle a comme des mimiques de son père ou de... Je sais pas. Puis moi, ça me déconcentre.
Okay.
Ça me déconcentre au début, mais à un moment donné, tu te rentres dans l'histoire. C'est ma seule bémol là, quand même. Ouais. Mais c'est quand même un film un peu... on sait un peu où est-ce que ça s'en va. On sait que il y a comme une chicane, il va y avoir une réconciliation.
OK.
La filiation père-fille, tout ça. Celui que je suis pas capable de prononcer son nom, le...
Colmfjord?
Ouais.
Colmfjord?
Ouais.
Colm.
Il est cool. C'est cool de le voir là-dedans, tu sais.
Il fait un anglophone qui parle français.
Exactement, qui okay. casse le français.
C'est pas prévisible pantoute.
C'est comme le Leonard Cohen de la película.
OK.
C'est ça. Les hommes de ma mère, My Mother's Men, un film d'Annick Jean avec un scénario de Maryse la tendresse.
OK. Donc, à voir. Tu le recommandes tout de même?
C'est à voir.
Ouais.
C'est à voir. Oh, ouais. C'est okay. un bon film. C'est un bon film. Il faut encourager le cinéma, le 9e art, fait au Québec, à Montréal, au Canada, peu importe. C'est un... ça l'occupe des artisans et des artisanes d'ici, des cinéastes, des monteurs.
Mais surtout que c'est un point de vue
d'ici, puis surtout de
point de vue de réalisatrice aussi, d'une autrice... Donc, c'est important.
Exactement.
Ouais.
Puis, ça serait pas bon, je le dirais. J'ai déjà critiqué des films que j'ai moins aimé, mais celui-là, ça s'écoute bien. J'ai même presque versé une larme à un moment donné. Ça me faisait penser à des chicanes que tu as dans des familles, puis tout ça. Puis, on viendra pas sentimental à matin, là, quand même. C'est lundi matin, sinon la semaine va être longue.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, je vous recommande ça.
Les hommes de ma mère.
Exact.
Excellent, Marc-André.
On va y aller en musique parce que le temps file, puis on a bien de la musique. Allons-y. Entre le bien et le mal.
1993, Paris Brooklyn, la puissance du son. Oui! It's the good, it's the bad.
C'était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos.
Hey yo, it's time to get up. Time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good.
L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstars à Paris, en France, comme dans la Rome antique.
imite le maître, ma gueule mise comme Spartacus, limite le maître qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your turn, guru.
Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad,
le bien, le mal.
The good, the bad,
le bien, le mal.
C'est le monde des affaires, OPA sur la misère. Le réel menace, tralalala l'air. L'air de rien, je doute de l'existence des dieux. De l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance, en prenant du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan.
I come in peace, but suckers always trying to front. So I gotta let them know, gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead. With bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit. So kill the noise, cause the rude boys ain't having it.
It's the good,
what I
le bien, le mal.
En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte la jette, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Problème politique et technique, ok man, tout s'explique.
Yeah, my man MC Solar in the house. I'm known as the goon, known as the goon. You know that. Got the whole posse, Jimmy James, Mikey Mush Mush, Lucian, Blackjack, Levan, Terry, Ramses, Sunny MC, Seek, Menelec, Bambi Cruz, Planet Mars, Strike, Regis, Boom Bass, Sedan, Democrat D, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking no shorts in 93. Peace. It's the good and the bad, and I'm out.
On est de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de Jazz Mataz.
The Guru, projet de Guru sorti en 93-94, featuring MC Solar, et le titre est...
Le bien,
le mal.
Le mal.
The good,
the bad. The bad.
Qui est Guru?
Guru, c'est un et demi de Gangstar avec DJ Premier. Comment on peut dire le Gangstar, c'est le son de New York. DJ oui, Premier a vraiment créé le son de New York avec ses sample heavy.
C'est scratch.
Vraiment le son de New York. C'est grimy, noir, dirty, dusty, mais jazzy aussi. Il a vraiment mis ses touches de jazz dans un des albums de Gangstar. Puis. Mon album préféré, c'est le Moment of Truth, sorti en 98, là, qui est vraiment solide. Mais tu sais, Guru, c'est rap, c'est vraiment, ça flow comme du beurre. Là. C'est, tu peux pas dire que c'est pas bon. C'est comme Black Thought of the Roots. Il y a pas une chanson que ses raps sont genre, c'est pas super. Non,
c'est vraiment... pas forcé, non. C'est tout le temps ça.
Puis ça sort tout comme c'était rien. Puis il est vraiment talentueux. Il est respecté par tous les rappers. C'est considéré un des top MCs. De tous les temps.
Puis le projet Jazz Mataz?
C'est an experimental fusion of hip-hop and jazz.
Fait que pochette, c'est comme un tribut à Blue Note. C'est vraiment créé genre l'espèce de smoky...
vieil album jazz.
Vieil album jazz,
exact. Sépia, noir et blanc, comme... C'est intemporel, là, comme ils disent, c'est en 1993, mais ça a l'air de... Ça peut être 1960, ouais, 1950.
C'est ça. Là, exact. C'était comme l'époque, en début 90, que Gangstar, ils ont fait une ou deux chansons avec une influence de jazz, puis je pense que Guru a juste embarqué sur ce thème, okay. Avec beaucoup de collaborations avec des gros noms, tu sais, même de jazz, Roy Ayers, Lonnie Liston Smith... Donald Byrd, le joueur de trompette, puis avec des rappers comme MC Solar, puis je sais pas c'est qui les autres derrière la pochette.
DC Lee, Gary Banaco, je sais pas ce qui, mais juste Donald Byrd, il est allé chercher des gros noms.
Ouais.
Puis tu sais, je pense que c'est un peu comme Austry, ils ont eu un peu accès au sampling de Blue Note pis tout, parce que t'as des affaires justement à la toune de Larry Bird, Donald Bird, pardon, il parle de ça, là, tu sais, pis
okay.
Y a comme une introduction voix, une conversation, pis après ça commence, pis c'est les c'est la, la jazz de ces pionniers-là. Fait que,
c'est là, un classique. Ouais. C'est, tu pourrais comme juste l'écouter comme n'importe quel album que tu trouves dans les streams. Puis c'est impressionnant que 30 ans plus tard...
Ça a bien vieilli.
Tu sais, c'est vraiment early, c'est comme le son de 93, des gros beats, hardcore. Mais c'est vraiment un thème smooth, jazzy. Puis le deuxième volume aussi est excellent. Ouais.
L'album est jaune. Celui-là, il est bleu. L'autre, il est jaune orange. Ouais. Après ça, il a fait un album R&B dans le Jazz Mataz,
ouais,
avec du monde du R&B. Il est bon, mais il n'est pas aussi bon, on va dire. Il est comme... Il est plus bonbon, puis il a refait un quatrième.
Ouais,
après, il est décédé. Quatre ou cinquième. Il en a fait 4-5, mais malheureusement...
Ouais, décédé,
Gourou, il est décédé. Mais,
problème de santé.
Ouais, le problème de santé, mais... très bon artiste, très bonne musique. Moi, Gangstar, j'avais peur. Je pensais que c'était une affaire de gang. Il y avait un groupe qui s'appelait Gangstar, mais il y avait ces Gangstar-là. Puis quand je suis arrivé au Chili, les gars qui avaient la boutique au Travida, qui faisaient du graffiti et tout ça, ils vendaient des vinyles. Puis Zekis, c'est un Nelson. Il s'appelle Nelson comme toi d'ailleurs. Il faisait du graffiti avec Green, avec la DVE, Dedicando, Vida Escritura. Puis eux, dans leur boutique, ils vendaient de l'aérosol, puis des vinyles, puis des pantalons cargo, puis des affaires rap. Puis ils faisaient tout le temps jouer ça. Puis je trouvais ça bon, Gangstar. Puis là, il dit, tu connais pas ça, non? Gangstar. Puis là, moi, je pensais que c'est une affaire reliée aux gangs. Puis il y avait un groupe qui a un vinyle, puis c'est des gangs. C'est des gars de gang, puis ça, ils ont fait un album. Mais eux, c'était pas ça. C'était Gourou, DJ Premier, puis le rap intelligent, la musique, ça accroche. Puis c'est eux qui m'ont fait découvrir ça. Puis.
C'est une évolution. Ouais, leur catalogue, c'est vraiment une évolution de comment, comme. C'est vraiment drôle parce que leurs albums, ils ont. Comme parmi toutes les Wu-Tang ou même les débuts 90, fin 80, t'avais Big Daddy Kane, KRS-One. Tu sais, il y avait déjà tout un son New York, genre par région, de Bronx, des affaires de même. Puis Gangstar, ils ont juste sorti un album qui était très funky. Puis un autre après, c'était genre un peu plus jazzy, plus comme, en mettant accessible à la Tribe Called Quest. Puis là, ça devient un petit peu plus sombre. Puis il y a des thèmes un peu plus gun-related, un petit peu plus violent, tu sais, ben, des thèmes genre de violence, là, qu'est-ce qui se passait à leurs yeux. Puis album par album, ça c'était comme un son plus enrichi. Puis ça c'était symbolique à l'image de New York. Que c'était genre, fais attention à ce que tu marches. Puis tu l'entendais dans les chansons, c'était comme, il y a des chansons qui étaient comme un peu plus sombres, puis des chansons plus calmes. Mais c'est tout ça. Tu pouvais t'imaginer en train de marcher les rues de New York. C'est un peu comme les albums classiques de Nas ou des albums de n'importe qui d'autre, des artistes de New York, Mobb Deep, Onyx, tous ces artistes-là. Ça tu sens que t'es à New York. Tu sens comme l'odeur de la ville.
Wow.
T'as 100% raison. Même Jazz Mataz, si tu regardes les titres des tunes, Down the Back Street, Look at Yourself, Respectful Dedication, Trust Me, Sight in the City. Tu sais, c'est urbain, il peut pas s'en sortir. C'est son ADN musical, mais de qu'est-ce qu'il vit.
Le 93, c'était genre un peu plus. Il s'enlignait un peu comme un son un peu plus sombre, tandis qu'il a sorti le Jazz Mataz en 94, 95.
Non, t'avais raison, ouais. 93.
Il suit après ça, le volume 2.
Ouais.
Puis Gangstar aussi, genre, j'ai oublié c'est quoi le nom, il y avait Step Into the Arena, puis il y a mon favori en 98 qui est le Moment of Truth, qui est genre il est plus solide. On dirait que genre ils ont mastered leur son new-yorkais.
Ok.
Vraiment cool.
Puis DJ Premier, il continue
c'est
à
un maître.
Jour.
C'est un maître. Tu sais, ils ont créé leur catalogue, puis DJ Premier, c'est un maître. Comme si tu veux un beat new-yorkais, DJ Premier, c'est le gars que tu veux. Avoir un beat.
Est-ce qu'ils travaillent encore? Ils font encore des projets actuels?
Ils ont même sorti un album posthume, Gangstar, qu'il a repris des vocales qui étaient de Gourou, qui étaient comme dans un disque dur, puis il a créé un autre album. Il voulait fermer la boucle de Gangstar parce qu'il était décédé soudainement. Il y a des problèmes de santé puis de communication, puis il voulait vraiment fermer l'histoire des Gangstar. Disons que leur dernier album c'était en 2003, puis ça a été comme juste okay. fini genre comme amputé, puis là, il a pu finir en 2010 leur dernier album. Que vraiment le fun à écouter.
OK. Ouais. Cool. Merci pour...
Merci César. C'est,
cette belle leçon de...
Hip-hop 101.
Hip-hop 101, New York.
Hip-hop 101.
Des années 90. Il faut dire que c'est aussi le 50e anniversaire. Ou c'était le 50e?
C'était le 50e l'année passée.
En 2023.
Ouais. On est encore là-dedans.
Donc, on célèbre encore les 50 ans du
toute
hip-hop.
L'année. Ouais.
En découvrant l'histoire du hip-hop.
C'est cool qu'on célèbre un genre de musique.
Ouais, parce
qu'on
pourrait
dire 50 ans de rock and roll, 50 ans de jazz. C'est vraiment comme les hip-hop.
Ouais,
ils ont dit c'est les 50 ans, puis.
En 1973.
73, ok, à partir d'un party dans un building à.
Dans Brooklyn, le Bronx,
dans le Bronx, ouais.
DJ,
ouais, DJ Cool Herc.
Ah, Cool Herc. Ouais,
qui a juste mis deux tables tournantes, puis.
Comme des sound systems jamaïcains, puis.
Ouais.
C'était un block party. C'était comme. Ouais, ils ont même genre. Trouver le building où ce qui a fait le party, c'est comme c'est là que hip hop a commencé. Effectivement, il y a vraiment le point de repère pour un genre de musique.
C'est particulier quand même.
C'est particulier. Ouais. Puis là, tu peux voir qu'à partir de là, où est-ce que le tree branch, c'est juste où est-ce que c'est parti de 113, 119, 119 à NWA, puis etc., etc., etc.
Mm-hmm.
Toutes les sous-branches, comme dans le métal.
Oui, j'allais un peu faire le même parallèle.
Ouais,
le autre...
avec,
Well, that's a nice segue, parlant de métal, parce que le métal venait de rock, puis du rock, puis rock du and
blues,
roll, puis du blues, puis du jazz.
Ouais.
Puis un des bands favoris à nous que t'as
les
mains.
Voici l'histoire illustrée de Black Sabbath. 1968-2017.
Oui.
Ah ouais, 2017.
Écrit par Joel McIver. Une préface de Rob Flynn. Rob Flynn, c'est le guitariste qui était dans Violins, Vio-Lance, que j'avais vu en show, et qui ont un groupe qui sont les dignes héritiers du thrash metal, qui ont gardé la flamme comme le thrash metal aurait dû rester. C'est Machine Head.
Ah oui, OK,
un band
ouais.
qui est quand même très solide, puis
qui est actuel, hein?
Qui est actuel,
qui est en tournée,
là, qui sont là depuis longtemps. Mm. Et là, t'as l'histoire de Black Sabbath en français. C'est quand même assez intéressant pour un band de l'Angleterre, de British. Et le livre, bon, c'est une traduction, ça dit « Ce livre est dédié au regretté Ian Lemmy Kilmister, que j'ai rencontré à de nombreuses reprises et beaucoup admiré. » Ben, là-dessus...
Le chanteur de Motorhead.
De Motorhead. Qui est un autre band de l'Angleterre aussi.
Ouais.
De ces mêmes
époques. Des mêmes années, oui.
Des mêmes années.
Un peu après Black Sabbath.
Fait qu'on a toute la genèse de Black Sabbath.
Là, juste pour préciser, c'est pas une bande dessinée.
Non, c'est pas une bande dessinée. C'est un documentaire en livre. C'est l'histoire illustrée de Black Sabbath. Fait que t'as beaucoup de textes. T'as beaucoup de photos. On parle du rock and roll. On parle de beaucoup de choses. On parle. Regarde, moi j'ai mis une couple de post-it pour me rappeler des choses parce que ma petite mémoire. Et à un moment donné, le guitariste Tommy Iommi a eu des problèmes avec ses doigts. Il a été blessé parce que lui, il travaillait dans une shop, puis il a perdu le bout de ses doigts. Puis pour un guitariste,
deux doigts,
puis c'est la main qui tient le manche.
C'est pas une phalange qui a perdu au complet, c'est juste le tip.
Les tips des doigts, ouais.
Le majeur, puis l'annulaire, si je me trompe pas.
Non, je pense que c'est le troisième et quatrième, tu vois, genre,
c'est
comme des petits bouchons.
Ouais, il met des petites prothèses miniatures.
Fait que là, exactement. Et lui, il s'est basé, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, il s'est basé sur
Django.
Un guitariste exactement de jazz manouche, Django Reinhardt, qui est décédé en 53, qui avait influencé le jeune Tommy Iommi, parce qu'il a développé une manière de jouer de sa guitare sans utiliser ses troisième et quatrième doigts de la main du manche. Ben non, il les a toutes, mais il jouait vraiment pas mal juste avec ces deux-là, puis je sais pas comment il faisait. Il jouait comme, tu sais, il faisait des descentes de pentatonique, là, tu sais, des gammes. Il faisait ses gammes, mais au lieu de les faire avec le premier puis le quatrième, il prenait juste le premier puis le deux. Je sais pas, il switchait avec le deux, puis il jouait très vite. Fait que Tommy Iommi, quand il a eu son accident, il s'est bien gros influencé de Django Reinhardt. Et là, des affaires que je savais pas. Tommy Iommi, il a joué une manée avec Jethro Tull. puis qui est dans le film des Rolling Stones, qui s'appelle Rock and Roll Circus, oh, en 1968. J'ai pas vu le film, j'en ai souvent entendu parler.
J'ai
de
vu
ce
des
film-là.
Extraits de ce film, ouais.
Ouais, mais j'ai jamais vu au complet, puis je sais qu'il y a une belle copie qui est sortie. Et là, tu vois Tommy Iommi, qui a une guitare, oh, sa moustache habituelle, ses cheveux frisés, il ressemble presque à Carlos Santana, et il joue avec Jethro Tull, qui est un band plus progressif. Mm-hmm. Fait que t'as plein d'affaires que... OK, l'histoire, tu sais, je la raconterai pas. Il y a beaucoup de monde qui en savent plus que moi, mais dans ce livre-là, tu as beaucoup de résumés. Est-ce que vous savez de où est-ce que ça vient, le titre Black Sabbath?
Ben, moi, je pense que je le sais, mais je vais te laisser.
J'ai besoin d'un refresher.
Vas-y. Alors,
je pense que ça part du fait que, je crois que c'est Tony Iommi.
Ouais.
Avait passé devant un cinéma. Uh-huh. Puis le film à l'affiche, là, je me suis dit, c'est quoi le film qui était là? Ça s'appelait Black Sabbath, je pense.
Exactement.
Okay. Qui était un film d'horreur, je crois.
Ouais.
Puis c'est parti de ce film-là. Là. Du fait que. Ah ouais, ben aussi du fait que je sais pas s'il était encore dans. Il était déjà un band. Il voulait faire du rock, mais plus inspiré de films d'horreur.
Exact.
Avoir du rock.
Épeurant.
Même le poster du film, il a l'air vraiment cool.
J'ai pas besoin de Google, j'ai pas besoin d'AllMusic.
Ben, j'ai vu
pas
des documentaires.
J'ai
il y a
Nelson
longtemps.
À ma gauche et à ma droite, j'ai César. Moi, là, je suis comblé. À chaque lundi, je suis comblé. T'as raison, c'est le film d'horreur de 1963, Black Sabbath. En français, ça s'appelle Les Trois Visages de la Peur. Et comme tu dis, la pochette est vraiment... L'affiche du film, pardon, que César décrit est vraiment cool. C'est un cheval, c'est un cavalier, c'est un horseman qui a pas de tête et qui tient la guide du cheval du bras gauche. Et de la droite, il a sa tête décapitée.
Ouais.
Fait que c'est comme un horseman, mais sans tête.
Ça fait rappeler un film de Johnny Depp.
Ouais.
Début
ouais.
2000, là, ouais. Il devait comme chasser après un
Tim Burton, non?
Oui, oui. Tim Burton, oui.
C'est Tim Burton?
Je pense
ouais.
que c'est Sleepy mais... Hollow, ça c'est
ouais, Sleepy ouais. Hollow, ouais.
Fait que c'est vraiment basé là-dessus. Puis c'est l'acteur Boris Karloff qui jouait beaucoup dans les films d'horreur
mm-hmm.
qui joue là-dedans.
Boris.
On a une photo, là. On a des photos, fait que on rentre vraiment là-dedans. Et là, je sais que le temps file. Je pourrais en parler des heures de Black Sabbath. Fait que t'as toutes les moutures de Black Sabbath avec nul autre que Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio. T'as le chanteur de Deep Purple qui vient dans Born Again, un album. Il est apparu sur un seul album, mais c'est un album classique.
Ah ouais.
Et là, on a la carrière solo de Ozzy qui rentre en compte parce que Ozzy se fait évincer de Black Sabbath. Fait que là, on voit Ozzy qui fait Blizzard of Oz, qui rencontre Randy Rhoads. Et pendant ce temps-là, Black Sabbath, eux autres, ils continuent des fois avec Ronnie James Dio, des fois avec un autre chanteur. C'est de toute beauté. Et à l'intérieur, je l'ouvre devant vous, mes amis, c'est un 4 pages là, qui s'ouvre. Puis là, t'as la genèse des périodes.
C'est comme un arbre généalogique. En
exactement,
fait.
De seulement de Black Sabbath. Là,
les musiciens avant, après,
qu'est-ce qu'ils ont fait? La renaissance et la disparition de Black Sabbath, le grand groupe qui a influencé tous
merci.
Les sous-genres de métal.
On va continuer au prochain épisode.
Ben ouais,
un peu
pourquoi
plus
pas.
De Black
ouais?
Sabbath.
Okay. Ça, je le pense en attendant.
C'est déjà tout pour cette semaine. Il ne reste plus de temps. Merci César. Merci Marc-André.
Merci
on
à
prend
vous
un
deux.
Black Café pour se réveiller et on a commencé le lundi en python.
On a hâte de voir
sur
la
zone de
CKUT
90,3 FM. Bye bye.
This is General Trigger when I'm in Montreal. I tune into CKUT 90.3 on the FM band. Yes, them a look and can't run it. Reach the furlong, pour an arrow, them can't start it. We bypass, no for them down at the market. All 20 more mile, we burn it. CKUT Radio 90.3 on the FM band. General Trigger, bless.
What's going on, y'all? It's your girl, Miss Ben, and it's Black History Month, so you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3 FM.
Hi, my name is Kiara Quintella. You are listening to CKUT 90.3 FM. And for today's Brazilian show, I will be playing some of the biggest hits, biggest funk hits in Brazil. It's a very popular music amongst the younger.